Salut Raph.
Salut Pat.
Donc mardi prochain, élection présidentielle, mais il y a aussi plein d'élections partout aux États-Unis. C'est pas juste le président qu'on va choisir et il y a même des référendums.
Oui, écoute, hier, on se parlait des autres élections, donc des élections à la Chambre, au Sénat. Là, je te parle aujourd'hui de ce qu'on appelle les référendums d'initiative populaire. Comme tu le sais sans doute, environ la moitié des États américains qui permettent, dans une forme ou une autre, la tenue donc de ces RIP, là, RIP, référendum d'initiative populaire. Tu sais que, je sais pas si tu te rappelles de ça, soit dit en passant, mais on avait débattu au Québec il y a quelques années la possibilité de se doter aussi de ce mécanisme-là. Et il y avait notre collègue, en fait, actuel, Bernard Drinville, qui était député à l'Assemblée nationale, qui avait mis ça de l'avant. Finalement, ça c'était allé nulle part, mais ça avait été un débat qu'on avait eu ici. Aux États-Unis, ça fait des décennies qu'on a ça dans certains États. Voici comment ça fonctionne, donc. Vous êtes, disons, citoyen d'un État. Il y a telle ou telle mesure que vous aimeriez voir votre État adopter, mais que les élus de votre État veulent pas adopter. Fait que vous partez, vous lancez une pétition pour soumettre la mesure en question là, à un vote populaire. C'est pour ça qu'on appelle ça référendum d'initiative populaire. Donc, vous avez un certain délai. Ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, peu importe, pour amasser un certain nombre minimal, un quota de signatures des électeurs de l'État. Donc, ça peut être, par exemple, que vous avez 6 mois pour aller chercher les signatures de 10% de tous les électeurs de votre État. Si vous réussissez, et généralement, c'est assez difficile, là, soit dit en passant, il faut que vous soyez assez bien financé, bien, la mesure se retrouve sur les bulletins de vote. Le même bulletin de vote, vous allez choisir qui vous voulez comme président, comme sénateur, comme représentant, etc. Et si la mesure, le jour du scrutin, obtient une majorité de 50% plus 1, mais elle devient loi. Donc, on appelle ça de la démocratie directe. Les citoyens deviennent directement des législateurs. Et là, cette année, je vais te parler de quelques initiatives très intéressant. Je ne suis pas en train de te dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est très intéressant, notamment en Californie. Californie, c'est l'espèce de mec là, pour les référendums d'initiative populaire. En voici une. Il y a quelques années, la Californie avait interdit de considérer des facteurs comme le sexe, comme l'ethnicité, pour l'embauche d'employés de l'État, pour par exemple l'attribution de contrats publics. Et d'où est-ce que cette interdiction était venue? Bien, d'un référendum d'initiative populaire qui avait passé. Il avait dit « on interdit à l'État de considérer ça comme facteur ». Là, mardi prochain, les électeurs vont se prononcer à savoir est-ce qu'on devrait plutôt, en fait, abroger ça? Est-ce qu'on devrait permettre à l'État de la Californie de considérer des facteurs, donc, comme le sexe, comme la race, l'ethnicité, dans des décisions d'embauche, dans l'octroi de contrat ou même dans l'accès à l'éducation publique? Donc, hyper explosif comme sujet, comme enjeu de société. Je t'en donne un autre, un petit peu plus léger, mais quand même assez fascinant. Le vote à 17 ans. Là, tu vas peut-être me dire... C'est anticonstitutionnel, on ne peut pas voter avant 18 ans. Mais voici la twist en Californie qu'on essaie de faire passer, qui va peut-être passer. On donnerait le droit de voter dans les élections primaires quand tu as 17 ans et que tu vas avoir 18 ans au moment de l'élection générale. Donc, je te donne un exemple hyper concret. Disons que je suis un jeune de 17 ans, un flot, un bambin de 17 ans. Puis je vais avoir 18 ans, disons, le 1er novembre 2020. Donc, juste à temps pour l'élection générale de 2020. Bien, ça m'aurait donné le droit de voter. Par exemple, dans la primaire démocrate en mars dernier en Californie, quand j'avais encore 17 ans. Donc, écoute, c'est fascinant, c'est plein d'enjeux comme ça. On va aussi se prononcer dans plusieurs États sur la légalisation de la marijuana. Et
mais justement, la légalisation ou la décriminalisation, oui. Là, ça s'est fait par référendum d'initiative populaire à certains endroits, non?
T'as tout compris. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a commencé à légaliser la marijuana aux États-Unis. Il y a aucun législateur au début, certainement pas le Congrès américain qui avait donné son approbation. C'est qu'il y a eu des référendums. Ça a commencé au Colorado, dans l'État de Washington, en 2012. Effet boule de neige, et ça a été adopté en fait dans la plupart des États où on a voté. Et là, ce qui est fascinant cette année, Pat, c'est que c'est rendu dans des États beaucoup plus conservateurs, comme l'Arizona, comme le Montana, comme le Dakota du Sud. Et si ça passe, bien, ça devient loi. Donc, écoute, qui aurait cru il y a à peine 10 ans que le pot serait légal au Dakota du Sud? Mais ça va peut-être être la réalité dans moins d'une semaine maintenant.
Mais le gouvernement fédéral contrôle encore les banques, puis il y a bien des banques qui ne veulent pas dealer avec les compagnies de potes dans ces États-là. OK. Parle-moi de l'oléoduc Keystone XL sous une future, peut-être, administration Biden.
Oui, mais écoute, tu viens un petit peu de vendre la mèche. C'est assez drôle parce que lors du tour de table, je te disais, tu sais, il y a un enjeu là, qui pourrait peut-être...
J'y avais pas pensé. Je l'ai vu dans tes notes.
OK, mais c'est-tu quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui n'y a pas pensé. Parce que depuis que je t'ai lancé ça comme question, comme challenge, Pierre-Yves m'a envoyé à peu près 50 messages pour essayer de deviner de quel sujet on parlait. Mais c'est le fameux oléoduc Keystone. Parce que il y a quelques années, on se parle beaucoup là, des espèces de disputes entre Trudeau et Trump, mais il y a quelques années, il y avait eu un froid diplomatique énorme entre Stephen Harper et Barack Obama dans ce dossier-là. Pourquoi? Mais parce que l'oléoduc Keystone, pour ceux qui s'en rappellent peut-être pas beaucoup, on en avait parlé beaucoup, beaucoup, mais peut-être moins dans les dernières années. C'est un Nalléotuc gigantesque qui traverse la frontière canado-américaine. Donc, ça part de l'Alberta, ça s'en va jusqu'au milieu des États-Unis, jusqu'au Nebraska. Puis, il est question de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. 800 000 barils par jour. Ça, c'est juste assez pour chauffer ta maison l'hiver. Et le gouvernement canadien, donc sous Stephen Harper, et après ça, sous Justin Trudeau également, était farouchement pour le projet. L'administration de Barack Obama a statué contre. Et où est-ce qu'elle avait un droit de regard? C'est parce que, justement, le Léoduc traverse une frontière internationale. Donc, il y a une question d'international là-dedans, évidemment. Et le département d'État, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, devait donner son sceau d'approbation. Il ne l'a pas fait sous Obama. Donc, froid diplomatique. Arrive Trump. Trump donne son approbation. Et là, on commence à construire le pipeline en question, le Léoduc en question. Voici le punch de l'histoire. Arrive peut-être, on verra dans quoi, 3 mois, même pas, une future administration Biden qui a très clairement promis qu'elle allait enlever cette approbation-là pour continuer la construction parce qu'elle n'est pas terminée. Et donc, en coulisses à Ottawa, on est en train de se dire « Ih, comment est-ce qu'on va gérer cette patente-là? » Parce que le gouvernement canadien est encore pour. En même temps, ce n'est pas un projet qui est très populaire politiquement. Et aux États-Unis, au sein du Parti démocrate, c'est un projet qui est encore moins populaire qu'il ne l'était quand l'administration Obama-Biden l'a refusé il y a 8 ans. Fait que, écoute, on risque d'avoir là une grosse patate chaude dès les premiers mois de l'administration Biden, si évidemment elle a lieu.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. On risque d'avoir une patate chaude, mais écoute, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Parfait.
T'as raison, Pat.
Merci, Raph. On va s'en reparler demain.
À demain.